Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on finit cette magnifique semaine européenne. On s'est régalé toute la semaine, qualif de Lille, qualification du Paris Saint-Germain. Bon, c'était un match franco-français, donc il y a forcément une déception. Mais on a passé une belle semaine quand même, des bons matchs, des bonnes analyses. Et on va continuer, et surtout on va lancer cette 24e journée de championnat de Ligue 1 ce soir avec le leader qui va se déplacer à Strasbourg. Vous allez tout savoir à partir de 19h, mais avant, il y a de l'actu et il y a des bons thèmes concoctés cette semaine par François Pinet.
Salut, Jérôme.
Arrivé au bout, François.
Ça
bravo.
Y est, on arrive au bout. Enfin, il reste 2 heures à faire quand même, hein, Jérôme. Il va falloir quand même que tu me soutiennes pendant 2 heures. Tu vas y arriver?
Ouais, j'ai mal au dos, mais bon.
Non, en tout cas, je remarque qu'avec moi, effectivement, les équipes de France passent des tours, se qualifient.
Ça veut dire qu'il y a des chats noirs.
Ouais, il y a des chats noirs. Juste ça. Il y aura le retour de Benoît Boutron quand même lundi.
On verra.
Salut.
Ah oui, tu veux pas rester en fait. Ah, t'as choisi.
Voilà, j'ai choisi.
Écoute, on est bien accompagné, François, aujourd'hui. On est avec notre champion du monde. Il est là, Manu Petit. Salut Manu.
Salut Manu.
Bonsoir tout le monde.
Ça va Manu?
Il est en forme, Manu. Bon, il est vu arriver, il est en pleine forme.
Ça va. C'est une bonne semaine, c'est bon? Tout va bien.
Très bien, écoute.
Tu vas être bon. Et ben, tu sais pourquoi tu vas être bon? Parce qu'on a JPP, le ballon d'or avec nous. Jean-Pierre Papin. Salut Jean-Pierre.
Salut Jérôme, salut les amis.
Salut JPP.
Ça va Jean-Pierre?
Ouais, ça va bien, merci.
Bon, non, super, écoute, on a des thèmes pour toi, parce que notamment.
C'est sur mesure pour Jean-Pierre.
Enfin, tous les thèmes sont pour vous de toute façon, mais il va y avoir pas mal de thèmes sur cette 24e journée, puisqu'à 19h, vous le savez, on lance le multiplex de Roten sans flamme que tout le monde nous envie. On sera à Strasbourg avant Strasbourg-Lens, comme l'a dit Jérôme. Est-ce que Lens va se relancer ce soir? On parlera de la première d'Antoine Comboiré au Paris FC. C'est ce week-end face à Nice. Et bien sûr, le choc de cette 24e journée entre Marseille et Lyon au programme. Ça sera ce dimanche. On sera à Lyon, on sera à Marseille. Et d'ailleurs, on vous offre vos places ce soir pour ce match. Ça sera donc dimanche 20h45 au Vélodrome. 2 places plus un maillot collector de l'OM édition limitée Marseille Monumentale à gagner en envoyant dès maintenant foot au 7-32-16. Foot au 7-32-16. Le cadeau va tomber aujourd'hui. Dans Roten sans flamme, on reviendra sur
magnifique.
Le tirage au sort de la Ligue des Champions. Bien évidemment, un des événements de la journée, le PSG qui affrontera Chelsea. Ça sera en 8e de finale.
Il y a des affiches.
Il y a du lourd. Là, pour aller au bout, ça va être chaud pour le Paris Saint-Germain, mais bon, il faut déjà affronter Chelsea et le procès dans un instant de ceux qui pensent que Chelsea est favori de cette rencontre. On en parlera évidemment à 19h30. Les retrouvailles de Roten sans flamme avec Julien Cazard également dans 45 minutes. Ouais, Julien, il voulait te parler.
Donc, écoute, il est déjà venu une fois.
Figure-toi alors qu'il est à Madrid. Parce qu'il va rencontrer Eden Hazard.
D'accord. Voilà. À Madrid.
Ouais.
D'accord.
Ouais. Eden Hazard qui est à Madrid après son passage au Real Madrid. Et donc, il veut t'en parler dans un instant. Mais d'abord, on va faire appel au conseil de Manu, des conseils toujours avisés, pour Habib Bey avant ce premier choc à venir.
Vous êtes des fous, vous. Personne ne dit ce que je dois faire.
Il y a une petite perte de confiance et elle est logique au vu de la dynamique négative du moment.
J'ai l'impression d'assister en fait à la bande dessinée Astérix, tu vois, les individus, tu vois.
Je considère pas que l'équipe soit malade.
Ils arrivent à inverser certaines tendances quand ils sont vraiment le pied au mur.
Il faut incarner ce qu'est cette ville, mais à travers l'Olympique de Marseille.
Ils avaient la capacité à mettre un tempo dans le match et
aujourd'hui, j'ai un travail à réaliser. Cette pression-là, il faut savoir l'accepter.
Ce qui n'est pas irréalisable non plus, à partir du moment où tu détiens l'intégralité de ton championnat.
Le club aujourd'hui reste un club avec une aura et un impact aujourd'hui en Europe qui est énorme.
Ils ont un entraîneur qui fait l'unanimité au sein du club.
Il faut qu'on arrive à ressentir ce qu'est l'Olympique de Marseille.
Est-ce qu'on va demander à Greenwood de se comporter comme un Messi à la bonne bière, à bonne merde?
Ça me donne pas de crédibilité plus qu'un autre.
Je pense que le niveau, c'est pas une question de niveau.
Il va falloir qu'on aille chercher notre résultat.
On parle de leadership, c'est sur le terrain qu'on veut l'avoir. Et il assume parfaitement son rôle de leadership.
Oh, t'en fais pas, Manu, c'est quoi toute la peine que j'ai pris, hein?
Ah, mais c'est pas grave, je m'en fous.
Tu assumes, Manu, quand même.
Ouais, on assume, bien
que c'était
sûr,
pas sur une seule contre, journée. Hein,
si vous voulez, on peut faire aussi un patchwork de tout ce que vous avez fait comme connerie cette semaine. On va rigoler aussi. Hein.
Voilà, ouais. c'était évidemment sur plusieurs jours. Hein, c'était pas sur
plusieurs années.
Mais en tout cas, magnifique conseil donné à Habib Bey. Pour parler d'Habib Bey, justement, et notamment aussi du stage à Marbella, on va recevoir quelqu'un qui va suivre cette rencontre et qui va la commenter pour RMC. Flo Germain est avec nous. Salut Flo.
Salut François. Salut, salut à tous. Salut les amis.
L'OM qui reçoit Lyon ce dimanche après la défaite à Brest et puis quelques jours passés, je l'ai dit, en Espagne, l'OM qui doit se relancer face à un concurrent direct pour la Ligue des Champions. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'Habib Bey doit trancher dans le vice ? Doit-il écarter certains cadres et relancer d'autres joueurs ? Bref, on va parler des choix d'Habib Bey à venir. 32-16 pour débattre avec nous. Le WhatsApp également de Rotten sans flamme pour vos messages, 06-12-424-424. Avant de t'entendre, Jérôme, juste Flo, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé lors de ce retiro à Marbella. Habib Bey en a profité pour faire passer certains messages, certainement.
Voilà, c'est au-delà du déclic mental, hein, parce qu'on se doute bien que 5 jours à Marbella, Marbella, là, ils reviennent ce soir d'Andalousie. Bon, c'était pour changer le cadre, casser un peu la routine, vider les têtes avec quelques activités hors foot. Mais c'est vrai qu'on peut parler de vraie prise en main d'Habib Bey, parce qu'avant Brest-OM, il était arrivé la veille. Bon, c'était un peu dans l'urgence, donc il n'a pas pu lui-même le reconnaître impacté sur cette rencontre véritablement. Là, il a fait des séances qu'on nous dit vraiment axées sur l'intensité, que le staff est plutôt satisfait d'ailleurs du rythme affiché par les joueurs, parce que on a avait quand même un groupe assez touché par les dernières semaines, donc il a fallu justement retrouver cette envie-là, cette intensité-là. Il diffuse l'idée que le sprint final, avant ce sprint, toutes les cartes sont rebattues, donc ça colle à notre débat, hein, à savoir que tout le monde peut avoir sa chance. On verra justement si nouveau coach, nouveau choix, parce que si on le suit à la ligne, ça veut aussi dire que les tauliers peuvent être inquiétés, donc on a vu des Højbjerg ou Pavard à Brest plutôt en difficulté, voire très en difficulté, donc on verra si même les patrons du vestiaire ou ceux qui ont de la bouteille sont concernés. Et puis il y a eu aussi un travail tactique, donc une possible réorganisation, on verra dimanche, donc c'est vraiment l'heure des premiers choix pour Habib Bey, dont celui du capitana. Ballardi devrait faire son retour dimanche en tant que titulaire, c'est une probabilité, mais portera-t-il le brassard? Alors on parle, un vrai doute existe encore.
Ouais, donc pas mal de questions encore. On aura la composition d'équipe quelques heures avant ce match dimanche, mais on va en parler justement de ces choix d'Habib Bey. Jérôme, est-ce que tu penses qu'il doit trancher dans le vif? Là, il a eu le temps quand même de voir son groupe, de voir les qualités mentales et de joueurs de foot de ces joueurs.
Je serais été étonné qu'il ait les mêmes idées que de Zerbi ou que Abardonado quand il a repris l'équipe sur un match ou deux même. Je crois que c'est une autre politique, une autre philosophie de jeu qui doit amener. Alors, en l'espace d'une semaine, c'est pas parce qu'ils sont partis en stage que ça y est, d'un seul coup, on va avoir la patte à Habib Bey. Pas du tout, mais on doit voir, comme l'a très bien dit Flo, le match à Brest, on peut pas juger sur ce qu'il a amené tactiquement, c'est pas possible. C'est juste le choix des hommes. Il s'est trompé aussi à Brest dans ce choix-là. Il avait fait des choix assez forts. Il avait remis Vermeeren, ouais, par exemple. Il y avait des mecs qui étaient blessés ou suspendus. Donc ça a pas donné satisfaction. Est-ce qu'il va revenir un petit peu à ce qui se faisait avant? Moi, j'ai des gros doutes, parce que s'il fait ça, je pense que c'est le meilleur moyen, en effet, de se planter. Il faut redynamiser, ramener de la fraîcheur à ce groupe. Alors après, à lui de faire un état des lieux. Je pense que ce groupe est homogène dans le sens où il y a des joueurs qui sont arrivés avec un statut particulier, on les a mis dans le confort, on leur a dit vous êtes des leaders, vous êtes capitaine, vous êtes ceci, vous êtes cela. À l'arrivée, le bateau, il a la dérive complète, donc automatiquement, quand c'est à la dérive comme ça, tu changes d'entraîneur, parce que c'est le premier fusible, c'est ce qui a été fait. Il y a le président même qui est parti maintenant, donc tu te retrouves avec un nouvel entraîneur, d'autres idées. Bien sûr que entre la communication avec son groupe, c'est le plus important sur ce stage-là. Et là, pour apprendre à connaître les mecs individuellement, c'est quand même plus facile de les avoir sous la main. Donc je pense que ce stage, il a servi à ça déjà dans un premier temps. Après, moi, quand on me parle de séance intense, pas intense, mais tu crois vraiment, on est le 27 février, vous croyez vraiment que parce qu'il va faire des séances intenses, il va y avoir un changement radical sur le terrain? Les mecs vont courir comme des lions. Moi, je pense pas.
Je suis pas d'accord avec toi.
Moi, je pense, très honnêtement, quand tu vois peut-être que je me trompe, Manu, hein, mais quand tu vois l'état d'esprit et la personnalité de Zerbi, j'ai pas l'impression qu'il la sensation que son groupe, il le laissait s'endormir et qu'il ne travaillait pas et qu'ils étaient dans le confort. Je pense que lui aussi, au quotidien, il était peut-être usant sur d'autres choses, mais il les a fait courir. Mais c'est pour ça. Donc moi, encore une fois, ce que j'attends d'Habib Bey sur le match de dimanche soir, c'est qu'il nous surprenne dans sa composition d'équipe avec des choix différents.
Par exemple.
Mais si tu me dis,
tu écartes les joueurs,
écoute, j'ai pas besoin d'être dans le vestiaire et d'être aux entraînements à Marbella ou autre part pour me rendre compte que Balerdi, il a rien à foutre, titulaire et capitaine de cette équipe. Bah, on est d'accord.
Et pourtant, donc, Flo nous dit qu'il va peut-être revenir.
Écoute, s'il le garde, il est content de ce qu'il a vu sur les matchs d'avant et que il pense que c'est la tour de contrôle derrière, eh ben écoute, peut-être qu'avec Habib Bey, il va retrouver des pieds bien en place, il va retrouver un cerveau aussi où il va avoir une lecture du jeu et il va avoir cette aura dans le vestiaire. Je pense que c'est pas possible avec un mec comme ça. Donc si il
ouais, tu peux l'aligner en le déchargeant aussi de
ça par contre, oui,
de
ça c'est différent.
C'est déjà un peu un signe que t'envoies.
Ça c'est différent Flo, t'as raison. Après, s'il veut jouer à 3 derrière et qu'il estime que Balerdi, même s'il est pas capitaine, il sera plus fort que les autres autour. Moi, je pense que par rapport à l'effectif, et on l'avait mis assez en avant, défensivement, elle est quand même bien fournie, cette équipe. Et que si tous les joueurs sont aptes à jouer, à 3 ou à 4 derrière, Balerdi, pour moi, c'est pas un titulaire de cette équipe. Donc après, c'est Habib Bey qui fait ses choix. On verra comment il construit le milieu de terrain. Là, on parle, Flo, j'ai lu des trucs comme quoi le Nigérien qui vient d'arriver de Belgique, peut-être que lui, il sera sur le terrain.
J'ai pas l'info, mais il a été un peu réintégré. Non, mais je crois que c'est nos confrères de l'équipe qui expliquaient qu'il était intégré aux mises en place, ce qui est vrai, mais de là à affirmer qu'il va être titulaire dimanche, moi je peux pas le dire maintenant, mais c'est vrai que dans cette volonté de rebattre un peu les cartes, lui par exemple, Nadi est un joueur qui n'a pas eu de temps de jeu depuis qu'il est arrivé, donc à un moment donné, il a été recruté cet hiver, il faut peut-être l'utiliser, exactement, le lancer et peut-être tenter quelque chose au milieu de terrain, même si au milieu de terrain, il y a un joueur dans ce marasme qui a apporté un petit peu, c'est Quinton Timber qui a été plutôt intéressant à côté d'un Hubert qui lui est en grande difficulté. Donc vous voyez, si un Nadi par exemple était lancé, quid de Hubert
ce sont
des questions qui se posent par rapport au premier choix de Bey.
Manu, t'es pas d'accord?
Non, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme.
Sur le
cas Balerdi, en tout cas, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on Olympique de Marseille ait fait ce stage à l'extérieur du climat et de l'environnement marseillais qui est quand même relativement anxiogène ces dernières semaines. Les joueurs avaient besoin un petit peu de sortir de ça et surtout de vivre 24 heures sur 24 ensemble, de faire l'union sacrée avant ce match tellement important de ce week-end sur le plan comptable, mais également sur la confiance. C'est le fait que Habib Bey soit arrivé la veille du match qu'ils ont perdu contre Brest sans son staff, on peut pas lui remettre
sur le dos. Sauf qu'il a fait ses choix quand même.
Il a tenté des choses, on peut pas lui reprocher. Voilà, il s'est planté.
Ah, on peut lui reprocher, mais on va pas l'impacter sur.
Son staff est arrivé il y a quelques jours. Il est en cours de route, donc il a choisi justement
de vivre. Et en plus, Vermeeren, c'était quelque chose que les supporters souhaitaient voir aussi.
Donc
la réintégration
du milieu de terrain. C'est la meilleure.
Non, mais c'est sans doute qu'il avait vu des choses aussi, comme les supporters avaient vu aussi.
Donc en passant une semaine avec son staff, ils ont voulu créer justement une espèce d'union sacrée, de l'entre-soi, où il fallait vivre 24 heures sur 24, manger, parler, penser, dormir, football, et surtout se connaître sur le plan relationnel, tisser des liens, et pourquoi pas travailler. Et là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est pas dans le sens où il va faire des séances intensives qui va changer l'état physique des joueurs. Non, c'est pas ça. C'est de leur mettre à l'esprit en fait quelque chose de fondamental depuis le début de saison et surtout dans le football moderne. Si tu mets pas d'intensité dans ton jeu, tu devras bouger même contre l'équipe la plus pourrie.
De Zerbi leur disait la même chose.
Oui, sauf que c'est là où je veux en finir. C'est que quand tu prends toutes les meilleures prestations olympiques de Marseille depuis le début de saison, que ça soit en championnat ou de temps en temps quand ils l'ont fait en Champions League, ils ont mis à chaque fois de l'intensité. Si moi je suis joueur olympique de Marseille, je comprends ça, c'est un fait, c'est factuel, c'est pas quelque chose que j'ai inventé.
Donc ça,
si
l'autre toutes les
si
équipes,
lui
Manu.
et essaye de l'imposer dans ses séances en Espagne en disant c'est en mettant l'intensité qu'on arrivera à tirer le meilleur
du
groupe.
Tu penses que De Zerbi le faisait pas?
Je pense que De Zerbi, à un moment donné, la communication était rompue, qu'il avait plus la confiance, il était plus, il fédérait plus son groupe et qu'il y avait des joueurs qui étaient contre lui. Il y avait.
Non, mais ça, c'est possible.
Je dis pas qu'il y avait une espèce de mutinerie, mais on en était pas loin. Moi, je pense que même lui, il avait une certaine lassitude, il arrêtait pas de d'envoyer des mauvais signaux dans sa communication, dans la presse. Et donc, je pense que les séances intensives qu'ils ont fait en Espagne, c'est dans ce sens-là, de leur dire, les gars, depuis le début de saison, à chaque fois que vous êtes arrivés à rivaliser avec le Paris Saint-Germain à maintes reprises, que ce soit le trophée des champions ou même en championnat, en mettant de l'intensité. Et c'est là où je veux revenir aussi à Balerdi, c'est que le mec a joué que 16 matchs en championnat depuis le début de saison. Il a raté beaucoup, beaucoup de matchs. Et il est dans la défense centrale à chaque fois que le mec a fait des grosses prestations. Donc c'est quand même pas. Et à chaque fois que les entraîneurs ont fait leur 11 dans les gros matchs, Balerdi était toujours titulaire. Donc quelque part.
Et quand ils étaient à la dérive, il était encore plus à la dérive.
Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu commences à pointer Balerdi du doigt en disant qu'il est pas bon, faut le mettre sur le banc, lui retirer le capitana, cite-moi un joueur qui sort des critiques.
Ah, mais ça.
À part Greenwood et encore, dans les gros matchs, il n'existe pas. Il y a personne. Et moi, je pense que sur le plan de la confiance, et c'est là où j'en reviens aussi à ce stage en Espagne. Je me dis, quel est le meilleur moyen pour souder un groupe quand tu vis 24 heures sur 24 ensemble? Pour moi, le plus gros challenge de David Bay aujourd'hui, c'est même pas de découvrir quel sera son meilleur 11 dimanche, c'est de savoir comment il peut faire pour améliorer la tête de tous ces joueurs. Parce que quand ils sont bien, ils sont capables de grosses prestations.
Toi, tu penses que ça passe pas par des choix forts, en fait?
Moi, je pense que c'est plus c'est mental, en fait.
Oui,
c'est pour ça que De Zerbi, le lien était cassé à ce niveau-là. Non, il n'y avait plus de discours, il n'y avait plus de communication.
Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais en fait, moi, là où je te comprends pas, c'est pour donner plus de confiance et que le mental soit meilleur sur le terrain. Ça passe forcément par des choix forts de la part d'Abi Bey.
J'ai vu à droite et à gauche justement que des gens proches de l'Olympique de Marseille, qui étaient présent également pendant ce stage, disait qu'il y a quand même quelque chose qui différencie énormément avec De Zerbi, c'est la communication, l'échange, l'interactivité, l'interaction qu'il pouvait avoir avec les gens sur le plan humain.
Ouais.
Chose qu'on avait remis en question à Rennes, rappelez-vous
avec
quand même.
Bey,
avec Bey.
Bah, oui.
Donc quelque part, peut-être que lui aussi a appris de certaines relations avec ses joueurs et de se dire, ils ont plus besoin d'un mec qui soit là pour les accompagner plutôt qu'un mec qui leur rentre dedans.
En tout cas, c'est vrai que tu fais référence au Bey Rennais qui n'avait pas hésité à faire des choix très forts en écartant certains
pour répondre à ta question, j'attends pas de surprise phénoménale dimanche. J'attends justement un regain au niveau mental.
Jean-Pierre,
toi, tu connais bien le contexte marseillais, donc toi, tu
t'as... Moi, je vous entends, je me régale. Je me régale à vous entendre.
Non, mais alors tu t'attends à quoi, toi?
Surtout, il a la compo, Jean-Pierre.
Ah,
c'est ça,
t'as la compo. Alors vas-y, la compo avec
Jean-Pierre.
On y va.
Moi, attends, alors je parle avant la compo, vous êtes la compo d'abord.
Vas-y, comme tu veux. Vas-y.
Alors moi, ce que je m'attends, en fait, un peu d'accord avec Manu par rapport à améliorer le moral, parce que je pense que mentalement, ils ont été touchés, pas spécialement par rapport à De Zerbi, mais par rapport aux résultats. Mais moi, ce que je m'attends demain, c'est ce que, attendent tous les supporters de l'OM, c'est-à-dire d'avoir un jeu plus vite, plus vertical,
plus agressif,
que tu respectes, plus agressif, plus d'intensité, que tu respectes le blason de ton club qui est droit au but.
Ouais.
À Marseille, je suis désolé, mais on préfère être Liverpool que Manchester City. Et depuis des années, on est Manchester City. Alors quelquefois, quand t'as des joueurs qui sont tous en face, ça se passe bien, etc. Tu mènes rapidement, t'arrives à en mettre 3, 4, 5. Mais chaque fois qu'on a joué contre des équipes qui étaient bloc bas, on a perdu ou on a lutté, ça a été compliqué. Parce qu'à partir du moment où tu viens bloc bas, que t'empêches Greenwood de prendre de la vitesse, Pachao de prendre de la vitesse, il y a plus rien après. Tandis que je pense que jouer plus vite, plus vertical, se servir très vite de tes forces offensives, je pense que l'OM attend ça aujourd'hui.
Ça demande de faire des courses, de redoublement de courses.
Alors ça demande des courses, mais moi je les ai vus faire des courses, je dis franchement. Sauf qu'avec le coach De Zerbi, c'était comme le font certainement aujourd'hui beaucoup de coachs, essayer de garder le ballon, d'aller à droite, aller à gauche, à droite, aller à gauche.
Les courses latérales, tu veux dire?
Exactement.
Et oui, Jean-Pierre, moi je t'entends et je comprends très bien. Il faut respecter l'ADN du club, droit au but et tout. Mais il y a une équipe qui a été formée par De Zerbi, par Benatia, qui allait dans le sens de d'une possession de balle parce que De Zerbi voulait ça. Et toi, tu vas demander. Donc ils ont construit un groupe pour avoir ça. Et d'un seul coup, parce que Bey arrive, donc maintenant il faut faire changer de stratégie. Comment
À un moment, il faut changer quelque chose.
Oui, mais comment tu vas intégrer aux joueurs qui sont là pour qui aiment avoir le ballon, avoir de la possession, même s'ils ont eu du mal à la mettre en place, on est d'accord, et tu vas leur demander maintenant, les gars, c'est un jeu direct. Ah ouais, d'accord, ok, un jeu direct, mais bon, la vitesse de
Greenwood... Ça change quoi, Jérôme ? Entre nous, ça change quoi, le jeu direct ? Ça change qu'il va falloir faire des courses supplémentaires.
Ça veut dire qu'il faut des pieds au milieu de terrain et défensivement, et tu le sais, des défenseurs, des pieds bien mis dans le bon sens pour trouver la profondeur et la vitesse de ces joueurs-là. Ressortir le ballon proprement et vite. En effet, est-ce qu'aujourd'hui, tu as cette capacité au milieu de terrain ou sur tes défenseurs de faire ça ? Moi, je te dis que non. Moi,
j'ai vu les équipes d'Habib Bey jouer, notamment quand ils étaient à 3 derrière. Alors, je sais pas si jouera à 3 demain, je sais pas, je vais pas prendre de risque par rapport à ça. Mais à chaque fois que j'ai vu les équipes d'Habib Bey jouer, c'est des équipes avec un jeu vertical beaucoup plus prononcé. Ça va vite, ça va en contre. Dès que t'as le ballon en contre, mais plutôt que d'attendre, tu vas directement et tu vas poser des problèmes à d'autres équipes parce qu'à un moment tu vas mettre de l'intensité et les joueurs, à partir du moment où ils vont prendre confiance par rapport à ça, je pense qu'on a les joueurs capables aussi de jouer de cette manière.
Surtout offensivement, j'ai envie de dire, parce que d'ailleurs, t'aimes pas Jérôme que je prenne cette référence, mais contre l'Ajax en Ligue des Champions.
Non, mais parce que
l'Ajax,
il y avait pas de gardien, mais c'est pas grave.
Voilà. t'aimes bien l'Ajax, il t'a marqué. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines rencontres où on se disait qu'au final, peut-être les attaquants de l'OM, Pai Chao, Greenwood, Aubameyang quand il revient en forme, ce sont des joueurs qui en transition peuvent faire mal. Et parfois, on avait l'impression que ça ne collait pas avec la philosophie de jeu que voulait installer De Zerbi. Mais au final, certains joueurs quand même collent à ce système de verticalité qui peut être intéressant pour Bey.
Mais Flo et Jean-Pierre, et même Manu, parce qu'ils pensent comme vous, je suis d'accord avec vous. Le seul souci à ça, c'est bien sûr qu'on peut parler de la vitesse, c'est le point fort de Pacao quand il prend le ballon et ses frappes, parce que la vérité, c'est ses deux points forts. La vitesse d'Aubameyang, bien sûr, parce que c'est un dévoreur d'espace, même s'il est vieux, mais il est capable de le faire. Greenwood.
Et son adresse.
Greenwood, il aime prendre de la vitesse. Ouais, c'est vrai, il aime prendre de la vitesse, ça, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis juste que dans le milieu de terrain, il est là le problème, et même sur les défenseurs, je trouve que par moment, tu disais à 3 derrière. Oui, d'accord, tu joues à 3 derrière. Mais si tu joues à 3 derrière avec Balerdi, avec Medina et avec Pavard, tu crois que ces joueurs-là sont capables de trouver le bon espace, la profondeur avec ces... Moi, je pense que oui. Peut-être qu'on aura une bonne surprise.
Jérôme, encore une fois, là, on discute. Oui. On discute. Alors, c'est évidemment pas évident pour nous qui sommes à l'extérieur de prendre position pour tel ou tel système. Mais aujourd'hui à l'OM, il y a des joueurs qui sont capables, quoi qu'il arrive à un moment. Moi j'ai vu Højbjerg marquer des buts de loin.
Ouais. Bah il a une bonne frappe de balle en plus.
Mais pour ça il faut oser. Il y a personne qui a osé. Le seul qui a osé, c'est Pak Chao. Il a quelques fois loupé la cage, etc. Il a marqué des superbes buts. Greenwood, dès qu'il peut, il frappe.
Ouais, tu veux dire, faut oser, faut que
Aubameyang est capable de le faire.
Les incite à frapper. Voilà, c'est
non,
ça.
Non, mais bon, bah, aussi
c'est un espoir quelque part par rapport à ce que j'ai vu depuis quelques temps qui me plaît pas non plus. Mais alors, je sais pas si demain, du jour au lendemain, tu peux faire. Sauf que maintenant, tu joues un match hyper important contre Lyon. Ou quelque part t'as même pas le droit à l'erreur, t'es obligé de prendre 3 points. Et Habib, il va falloir qu'il change quelque chose.
Non, mais ça on est d'accord qu'il change des choses, il y a pas de problème. Moi je pense que la politique, et comme vous, il faut faire évoluer tactiquement cette équipe et leur donner un profil différent, et ça mettra le temps que ça mettra, parce que en l'espace de quelques jours on l'a vécu, c'est pas facile de passer d'une stratégie à une autre comme ça en quelques jours de stage. Mais après c'est aussi pour pour donner sur le terrain, et Manu il en parlait, moi je pense que c'est des joueurs qui ont peut-être moins joué avec De Zerbi qui peuvent apporter cette fraîcheur là et surtout un changement de leader, parce que un changement de leader t'as forcément t'apporter quelque chose de différent, déjà un discours différent.
Le capitaine tu veux dire?
Ouais, je pense
justement,
ouais,
le capitaine, mais alors,
tu mettrais qui? Parce que voilà, moi j'ai vraiment du mal
si
à
sortir un nom.
Je mettrais Aguerd, moi je trouve que c'est pas mal.
Manu, t'en as pas un? Non.
Ben moi c'est Balerdi, je laisse
ah ouais,
Balerdi.
Tu laisses Balerdi capitaine.
Voilà. D'accord. Bah, c'est vrai qu'on est nombreux à penser que Aguerd peut avoir le profil, parce que Højbjerg, honnêtement, par ses performances
fatigué,
en ce moment, il mérite pas d'être être le brassard.
Il doute comme beaucoup.
Et après, il faut être quand même expérimenté, être un titulaire en puissance. Aubameyang, par exemple, dans l'état d'esprit, aurait le profil, mais il n'est pas forcément titulaire, donc on va pas mettre un remplaçant.
Le Nigérian, on connaît pas, on l'a pas vu jouer.
Oui, mais
on
va pas. Il sera pas capitaine.
Voilà. Par contre, Aguerd, c'est d'accord, vrai. D'accord. Si tu n'es pas blessé, a le profil pour être capitaine.
Jean-Pierre. Toi, t'as un capitaine. Tu as peut-être l'info, d'ailleurs. Tu vas nous la donner, si tu l'as, qui va être le capitaine. Ben tu vois qui, Jean-Pierre?
Moi, au jour d'aujourd'hui?
Ouais, tu mettrais
Je pense que je mets Aguerd, capitaine.
Aguerd, ok. Ah. Ouais, bah, ça fait deux voix, quand même, pour Aguerd, hein. C'est pas mal, hein.
Ouais, enfin, vous le mettez. Il y a Rouli aussi. Vous le mettez parce qu'en fait, Balerdi est contesté, enfin, critiqué dans
Mais non, mais moi, je pense que Balerdi, il a besoin d'avoir.
Voilà, il faut le libérer.
Il a besoin d'avoir à côté de lui quelqu'un qui le voilà.
Il a besoin de faire de la pression. Il a besoin de faire de la planche. Pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit.
Ouais, mais ça peut-être. Mais ça c'est pas grave. Mais moi je pense qu'il a. Moi j'ai toujours vu Balerdi jouer bien quand il avait un mec expérimenté à côté.
Ah bon, bon.
Oui, non, mais ça c'est pas le problème.
Bah, envoie-moi les matchs où tu l'as trouvé bien, parce que moi j'en ai pas beaucoup.
Ah, on peut pas tout lui dénigrer dessus. C'est vrai qu'il a fait des bourdes. On est d'accord, il a fait des bourdes.
Non, mais c'est pas le seul responsable. T'as raison.
Ils en ont tous. Il est pas tout seul. Ils sont quatre derrière.
Regarde la preuve, c'est qu'à Brest, ils ont pris un bouillon monumentaire en premier temps, il n'était pas là.
Donc, on va remercier Flo, et Flo va avoir des informations compo, bien sûr, donc il faut surveiller.
C'est tout, Flo.
RMC Sport.fr, la conférence de presse demain, et tu y seras, bien sûr.
Merci Flo.
Et tu représenteras RMC, voilà, pour RMC à la conf de presse. Merci beaucoup. Dans un instant, on reparlera d'ailleurs, de ce Marseille-Lyon, puisqu'à 19h, dans le multiplex, toutes les infos lyonnaises, avec Edouard Jay, évidemment. D'abord, on va revenir sur le tirage au sort de Ligue des Champions dans le procès de Rotten sans flamme. C'est le procès de ceux qui pensent que le PSG est favori face à Chelsea, puisque oui, c'est PSG, Chelsea, au mois de mars. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Rotten.
18h30 sur RMC, on est là. On est bien dans Rotten sans flamme, la deuxième demi-heure avec Jean-Pierre Papin, avec Manu Petit, avec François Pinet dans 15 minutes. Le Allo Jérôme.
Oui, alors un Allo Jérôme particulier, puisque c'est le retour de Julien Cazard, voilà, qui va nous faire un petit coucou.
Il s'est invité dans l'émission. Bah, il a raison. Voilà. Il est
nous parler d'Eden Hazard qu'il a rencontré à Madrid aujourd'hui pour le Cazard enchaîné. Et puis on se posera la question, tiens, sur Eden Hazard, est-ce qu'il a gâché sa fin de carrière, notamment au Real Madrid. Mais d'abord, on va ouvrir les portes du tribunal, vous le savez, comme tous les jours à cette heure-ci, de Rotten sans flamme.
RMC, Rotten sans flamme.
La frappe des taux, dans les jambes, la frappe d'Aspilicueta, devant Dembaba, et le but pour Chelsea.
Non, c'est pas possible.
Le procès de Rotten sans flamme.
Et on en a des souvenirs de PSG Chelsea. On va les ressortir du placard, tous ces souvenirs, puisque le 11 mars, il y aura le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Retour à Londres le 17 mars. Retrouvailles aussi cette saison entre les deux clubs après la défaite du PSG en Coupe du Monde des clubs, remportée donc par le club anglais 3-0. Pas d'esprit de revanche, a dit Luis Enrique en conférence de presse aujourd'hui, qui est très content, Luis Enrique, d'affronter Chelsea. Accusé ce soir dans le procès, ceux qui pensent que le PSG et favori de cette confrontation face aux Anglais. Monsieur le procureur Jean-Pierre Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Les avocats de la défense, Maître Rotten et Maître Petit, bonsoir.
Bonsoir.
Et le juge au 32-16, c'est Aubin. Bonsoir Aubin.
Bonsoir les gars, JPP, Manuel.
Salut. Bien, hein.
Salut.
Là, il y a du lourd. Il va falloir que tu sois impartial, hein. Tu le sais, donc tu vas bien écouter le procès. On va commencer par toi, JPP. Pour toi, on ne peut pas dire que le PSG est favori face à Chelsea?
Ben, ce que je vois en ce moment, depuis quelques temps, je vois une équipe du PSG qui certes revient bien, mais qui est pas mal en difficulté avec beaucoup de matchs dans lesquels je les ai vus jouer. Je pense que physiquement, tout le monde n'est pas encore revenu à 100%. Il y a aussi toujours énormément de blessés à chaque fois. Alors Chelsea, de son côté, ils ont cette finale de Coupe du Monde derrière qu'ils ont gagnée, je dirais, haut la main ce jour-là. Et puis, dans un championnat où c'est quand même pour eux... jamais évident, mais c'est une des grosses équipes de championnat. Et aujourd'hui, je pense que je verrais plus un Chelsea favori que le PSG favori aujourd'hui, même si le favori, même si quand même le PSG reste le champion d'Europe en titre.
Ouais. Donc voilà, pour Monsieur Papin, le procureur, on peut pas dire que le PSG favori, Maître Roten.
Moi, en gros, on s'amuse tout le temps, hein, dès qu'il y a un huitième de finale.
Dès le tirage, on aime
bien. De dire, il y a un favori, pas de favori. Automatiquement, quand tu débutes la compétition, un des favoris, c'est le tenant du titre. Par rapport à tout ce que le PSG a dégagé l'année dernière, ils sont rentrés.
Ça, c'est sur le papier, oui.
Non, mais ils sont. Mais c'est pour ça qu'on dit favori ou pas favori. Ouais. Alors après, bien sûr, on peut jouer les spécialistes sur le terrain, les performances comme le fait Jean-Pierre. Et ça se respecte. Et là, en effet, si tu regardes les dernières perfs du Paris Saint-Germain et les perfs de Chelsea, tu te dis, il va y avoir match, tu vois, parce que tu vois pas réellement une équipe plus forte que l'autre aujourd'hui. Et si athlétiquement et physiquement, tu dois pencher pour quelqu'un dans l'état de forme actuel, tu dirais que Chelsea, en effet, en termes athlétiques, a plus de moyens que le Paris Saint-Germain, qu'on sent très fatigué. Et les infos que j'ai du vestiaire sont pas forcément réjouissantes de ce côté-là, du côté du Paris Saint-Germain. Mais une fois que t'as dit ça, le statut de favori, tu l'as parce que le PSG est le premier club à annoncer qu'il voulait faire le back-to-back. La deuxième année, c'est pas facile. Et ce qui est normal, parce que t'es rentré aujourd'hui, t'es dans la cour des grands. T'es avec les meilleures équipes aujourd'hui. T'as gagné avec des champions. Ça y est, tu fais partie des cadors européens. Et je dis pas que Chelsea fait pas partie des cadors européens, mais Chelsea, avant le coup, au début de la compétition, même s'ils ont gagné la Coupe du Monde des clubs, mais bon, une compétition où tous les clubs européens ne participaient pas aussi, il faut reconnaître, la Ligue des Champions, pour moi, est plus dure à gagner. À partir de là, quand la Ligue des Champions est plus dure à gagner, tu mets Paris parmi les favoris et pas Chelsea. Donc c'est comme ça, Chelsea, leur objectif numéro un en début d'année, c'est pas, et Manu me dira peut-être, ira dans mon sens parce qu'il connaît bien mieux que moi le football anglais et ce qui se dit là-bas, mais je pense que Chelsea, quand ils démarrent l'année, ils se disent, on va essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions de nouveau dans le championnat anglais, essayer de jouer les troubles faites pour, pourquoi pas, gagner la Première Ligue. Et encore, je suis même pas sûr que l'objectif du club aujourd'hui, c'est de gagner la Première Ligue. Alors t'imagines que c'est pas forcément de gagner la Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que pour moi le PSG doit assumer ce statut-là de favori et qu'il parte comme ça. Mais ça sera pas simple.
Maître Petit, pour moi, pour compléter.
Pour moi, c'est le malgré toutes les difficultés que rencontrent les Parisiens, les gages d'inquiétude qu'ils nous envoient depuis pas mal de semaines. J'ai quand même beaucoup plus à l'heure actuelle, beaucoup plus. J'ai quelques certitudes du côté parisien que plutôt du côté de Chelsea.
Des certitudes qui datent de l'année dernière. Alors.
Parce que ces deux équipes qui ont joué le même nombre de matchs la saison dernière, qui ont connu exactement les mêmes problèmes depuis le début de saison en termes de blessures, contrairement au Paris Saint-Germain, Chelsea est capable de perdre contre des équipes largement à sa portée à domicile.
Ouais, on le voit.
En revanche, en Champions League, ils affichent un visage, comme en Première Ligue, un peu plus conquérant à l'extérieur. Mais moi, je me table en fait sur ce qui se passe sur le calendrier. Regarde le calendrier de Chelsea à partir de ce week-end.
Ah, il y a Arsenal déjà.
Mais attends, le choc, tu veux que je te dise ce qui se passe ?
Vas-y.
Tu as Arsenal, Aston Villa.
C'est en championnat.
Ouais. Une petite parenthèse en cup contre Wrexham. On s'en fout. Tourner. Derrière, c'est le PSG. Derrière, c'est Newcastle. Derrière, c'est encore le PSG.
Ouais, mais ils ont deux équipes, Manu.
Mais ils ont deux équipes, sauf que les deux équipes se valent pas.
Ils ont deux équipes, c'est pas la même chose.
Mais les deux équipes se valent pas. Ouais, mais sauf que c'est la première ligue. Ils sont en train de lutter avec Manchester United, avec Liverpool, avec Aston Villa pour accrocher le wagon de la Champions League. Aujourd'hui, ils n'ont pas le luxe de lâcher la compétition de la première ligue. Le Paris Saint-Germain peut même jouer avec 6 joueurs en moins.
Et ils sont quand même concurrencés par Lens, on en parlera tout à l'heure. Je veux dire, en Ligue 1, ils peuvent
mais
pas.
T'as deux équipes,
non,
c'est pas la même chose. Tu peux jouer
si tu me compares la Ligue 1 avec la première ligue, ça veut dire que je comprends rien au football.
Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais bon, il y a de la concurrence aussi dans leur championnat.
Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des débauches physiques quand tu vois que Chelsea a aussi des joueurs cramés. Cole Palmer, qui est leur meilleur joueur depuis deux saisons, il est fantomatique depuis le début de saison.
Ouais, c'est vrai.
Il n'arrive pas à avancer sur le terrain.
Fantomatique.
Il y a énormément de joueurs qui sont fantomatiques depuis le début de saison du côté de Chelsea. Et ils arrivent à s'en sortir grâce à ce que vient de dire JPP. Ils ont deux effectifs, donc ils peuvent faire de la rotation. Mmh. Malgré tout, ils n'arrivent pas à engranger des dynamiques. La meilleure dynamique qu'ils ont fait, c'est 5 victoires sur mi-janvier jusqu'à fin janvier sur les 2 semaines. Ils n'ont jamais été au-delà de ça. Donc moi, je veux bien, mais le Paris Saint-Germain, ça ne sera pas chose aisée parce que Chelsea arrive à hisser son niveau de jeu et à se mettre au niveau de la Champions League lorsqu'ils entendent la petite musique. Barcelone s'est fait gifler à Stamford Bridge.
3-0.
Ils sont capables d'aller gagner à Naples, un match super important pour rester dans les 8 premiers. Ils sont capables de hisser leur niveau de jeu et se mettre au niveau. Mais c'est très intermittent.
D'accord. On a entendu Aubin, tu as entendu donc Jean-Pierre Papin qui pense que Chelsea est favori, en tout cas que le PSG ne l'est pas, et l'avis de Jérôme et de Manu. Alors, on t'écoute pour le verdict.
Alors, pour le verdict, moi, je donne raison à Jérôme. Je donne raison à Jérôme parce que il faut bien se rendre compte que Chelsea, oui, ils ont deux équipes, mais qui ne se valent absolument pas et t'as pas la même cohésion. Et il faut pas oublier que Chelsea sont cinquième de PL et ils sont même pas sûrs d'être qualifiés en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc très honnêtement, sur le papier. Après, on sait les questions de forme, de blessures. Mais le problème de la forme et des blessures, ça touche tout le monde. Donc, pour moi, le seul avantage qu'ils ont, c'est que le match retour, ils le joueront à domicile. Et ça, c'est un truc, je crois, dont on n'a pas parlé.
Bon, voilà, Jérôme et Manu.
Pourtant, Chelsea est la deuxième meilleure équipe de Premier League à l'extérieur.
Ouais.
Ils sont au milieu de tableau à domicile cette saison.
Oui, alors c'est vrai qu'après, Jérôme, tu disais, dans le vestiaire, ça commence à s'inquiéter au Paris Saint-Germain.
Non, c'est pas
Ruiz ne sera pas là ce week-end, précise.
Ruiz, voilà, peut attendre. Ruiz
pourrait manquer d'ailleurs ses confrontations face à Chelsea.
Et puis c'est la revanche, les gars, on oublie.
Dembélé ne sera pas là ce week-end, Joao Neves non plus, Manu.
Sur les infos que je peux te donner, Dembélé sera là. Parce que ça va mieux, donc contre il sera Chelsea, là. Contre Chelsea, il sera là. Il aura le temps de se remettre.
Ruiz, non.
Il se remet pas d'un gros coup reçu. C'était contre le Sporting.
Au genou. Ça date.
Et c'est surtout inquiétant parce qu'il pouvait pas mettre le pied par terre après le Sporting. Et c'est vrai que cette contusion au genou dure.
Ça a gonflé.
Ouais. Il a pris. J'ai pas l'image en tête, mais il a pris un impact sévère. Il est sorti, il ne pouvait pas poser le pied par terre après le Sporting. Il pensait qu'après quelques jours, ça allait passer. Puis en fait, dès qu'il essaye de forcer un petit peu, ça gonfle, ça va pas.
Il y a un épanchement de synovie.
Donc pour l'instant, Ruiz, c'est pas prévu qu'il soit là déjà sur le match aller. Mmh. Et le match retour arrive la semaine d'après. Donc je pense que tu feras 100. Non, moi, les infos que je peux te donner, c'est que ce vestiaire, il est quand même bien amorphe aujourd'hui par rapport à l'année dernière. Ils sont fatigués, ils manquent d'énergie et on l'a senti. On était au Parc des Princes, François. Tu vois que ça manque de gaz. Alors des fois ils ont envie, ils s'accrochent. C'est vrai qu'ils ont un mental là pour de bon. C'est pas les Marseillais. Ils s'accrochent toujours, même dans la difficulté. Luis Enrique le dit souvent. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a des choses qui se passent en interne qu'on ne voit pas forcément et qui sont pas réjouissantes pour l'état de forme du groupe et le collectif. La mi-temps, tu sais que la mi-temps contre Monaco, où ils prennent un bouillon, donc ils prennent le but en fin de première mi-temps. Donc là, toutes les cartes sont redistribuées, on est à 0-0 hein, à ce moment-là. Dans le vestiaire, tu te dis, putain, il y a des mecs qui vont grimper au rideau. Il y en a un qui parle, et heureusement qu'il est là, c'est ce qu'on me dit, c'est Marquinhos. Marquinhos qui prend le relais parce qu'il est capitaine, parce qu'il se connaît ce club, il essaye de réveiller les mecs, mais les mecs, ils sont amorphes, ils manquent d'énergie, ils disent rien, on entendait une mouche voler. Tu sais, c'est quand même pas bon signe par rapport à un vestiaire qui a connu.
Et Enrique, tu sais pas un peu les retours que
Enrique, il essaye, je pense qu'il essaye de bouger un peu tout le monde, mais surtout la grosse inquiétude qu'il doit avoir, il nous le dit pas en conf de presse, mais parce qu'il masque tout ça. Mais
c'est pour ça qu'il tient le discours de dire nous on aime bien souffrir.
On est la meilleure équipe à souffrir,
donc il est conscient que son équipe est dans le dur.
Elle est dans le dur, et en fait l'inquiétude, et nous on l'a connu aussi, hein, Manu et Jean-Pierre, quand tu arrives à cette période là où tu sais que t'as plus d'énergie.
Ça va avoir le mental au bout d'un moment.
Mais tu sais tellement.
Et tu sais que t'as les matchs les plus importants.
En plus, et puis tu sais qu'il y a un déplacement au Havre. Je vais te dire l'état d'esprit du groupe aujourd'hui.
Donc on va y aller.
Non, c'est pas ça. C'est qu'ils se disent, même avec ce manque d'énergie et ce manque de, mais ils peuvent se faire accrocher au Havre. Ouais. Et on le voit, on le constate. Tous les matchs sont difficiles, même en Ligue 1, parce qu'ils les gagnent pas forcément contre des petites équipes. Bon. Et là, le Havre, si athlétiquement ils sont, parce que c'est attention, c'est une équipe qui court, ils rentrent dans les duels,
Jérôme,
ils aiment ça.
On en revient donc. Tout ça, c'était prévisible. On en revient quand même au mercato estival.
On a beaucoup parlé.
Mercato estival, il s'est passé.
C'est vrai.
Juste, on remercie Aubin.
C'est vrai, mais pour l'instant, il n'y a pas de. S'ils se font sortir contre Chelsea, en effet, là, on pourra dire, ils se sont trompés.
On remercie Aubin, et peut-être qu'avec les infos de Jérôme, là, tout le monde va changer et va voir Chelsea favori. Ça, c'est. Voilà. T'étais avocat, et finalement, tu te transformes en procureur. Avec ce que tu viens de nous dire, ça donne. Des arguments à Jean-Pierre Papin.
Écoute, on bosse, on essaye d'être le plus clair possible.
Merci pour ces infos.
C'est la beauté de travailler dans la presse. Hein, ce que tu veux aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, dire ce
et deux, trois picous de curonzin dans les fesses, et puis c'est reparti. Hein.
Ah, ok, dans les fesses. Très bien. Bon,
vaut mieux les faire dans les fesses.
Je voulais pas vous lancer là-dessus. Non. Merci beaucoup.
Tu veux les faire où, François, toi?
Non, je sais pas. J'aime pas trop la piqûre. J'aime pas trop les seringues, tout ça.
C'est pas la même seringue, on part.
Bon, allez. Elle est toute petite, la tienne.
Non, allez, on y va. On revient dans un instant, vous avez compris. On va recevoir Julien Cazard. Tiens, c'est un bon lancement pour Julien Cazard qui nous écoute et qui nous rejoint dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
François Pinet, Jérôme Roten.
18h48 sur RMC. On est là, on est bien. Les 10 dernières minutes de la première heure de Roten sans flamme. Mais vous inquiétez pas, après 19h, on est de retour avec notre fameux multiplex. Comme tous les vendredis.
La France envie le multiplex de Roten sans flamme.
Ils veulent copier. Mais quand tu copies, tu fais des choses moins bien.
Il nous envie Jean Baumel qui sera avec nous pour parler de Lens qui affronte Strasbourg ce soir.
Ça peut-être pas.
Il nous envie Edouard Jay quand même qui sera avec nous pour parler de Lyon. Qui joue contre l'Olympique de Marseille. Et puis Aurélien Tirsain aussi, bien sûr. Tout le monde nous envie Aurélien Tirsain, qui sera à Strasbourg, qui va nous parler du Paris FC, de la première d'Antoine Comboiré. Voilà, ça, c'est à partir de 19h.
On a la fine fleur ce soir.
Ah oui, là, on a du lourd. On a sorti les gros moyens cette semaine. Mais d'abord, il y a quelqu'un pour toi au téléphone, Jérôme.
Il est où ? Bonsoir, bonjour.
RMC, Roten sans flamme.
Au hasard, le contre la poitrine de Chénemont, Hazard face au gardien, Hazard une fois, Hazard deux fois, et Hazard qui marque le but, le 4e but des Diables Rouges.
Allô Jérôme.
Et oui, on est avec Julien Cazard qui il est réveillé à cette heure-ci, hein, tu vois, Julien Cazard maintenant, l'homme de la nuit d'RMC.
Heureusement qu'il est réveillé.
Ça va Julien ?
Salut Julien.
Je vous entends, je sors du lit là. Je sors du lit que je te...
Quelle vie incroyable.
Bon Julien, tu vas bien ? T'es à Madrid ?
Écoute, franchement, je vais pas me plaindre, je suis à Madrid, il fait beau, c'est magnifique.
Bon, super. T'as rencontré Eden Hazard, donc c'est pour ça que tu voulais venir nous en parler, parce que ça sera ce soir à partir de minuit sur RMC, dans le Cazard enchaîné. Et entretien exceptionnel avec Eden Hazard.
Évidemment. Exceptionnel avec Eden Hazard. Déjà un mec génial, un type super. Alors, il y a plein de fois, on me demande, mais pourquoi il est resté vivre à Madrid? Moi, je lui ai demandé. Et ben, en fait, c'est ça, il m'a dit, avec ce que j'ai fait là-bas, je suis sûr qu'on me demandera pas de selfie. Je peux être tranquille, personne m'emmerde.
C'est pas vrai.
Je me balade dans les rues, mais personne m'ennuie. Là, vraiment, autant en Angleterre, en France. C'est dur, mais alors à Madrid, tranquillos.
Justement, on va écouter un petit extrait, parce que tu lui as posé la question sur son sentiment. Est-ce que la fin de sa carrière, c'était un gâchis, justement par son passage raté à Madrid? On écoute Eden Hazard.
C'est mon ressenti, même quand, comme ici, je suis à Madrid, les gens, c'est tous des supporters du Real, c'est le sentiment qui domine, quoi. C'est que les gens, ils sont même pas dégoûtés parce que j'ai été mauvais ou quoi. C'est en fait que j'ai même pas pu leur montrer, quoi, tu vois. J'ai même pas eu la possibilité de leur montrer comment je jouais. J'ai fait quelques matchs. J'ai fait 5 bons matchs. Donc les gens, en fait, ils sont tristes. Et moi, en fait, le sentiment que j'ai sur ma carrière au Real, c'est ça.
Voilà, le gâchis, c'est ce qui vient en tête quand on parle d'Eden Hazard, Jérôme. Alors que bon, il a une belle carrière, mais bon, on se dit qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, quoi.
Non, mais on peut toujours faire mieux. Après, moi, je parlerai pas de gâchis, de regrets ou quoi que ce soit. Du moins, ça appartient au joueur, ça. Si le joueur, il communique comme ça, je sais pas ce qu'il t'a dit, Julien.
Non, mais
je sais pas, Julien. Est-ce qu'il a des regrets? Ouais. Est-ce qu'il je pense pas, moi.
En fait, il a des regrets. Oui et non, c'est-à-dire que en fait sa carrière, si tu regardes bien, de Lille à Chelsea, c'est que de la réussite. En fait, il en continue tout le temps. C'est-à-dire qu'à part avec les Diables Rouges, il y a le 2018 où ça choque. Mais en fait, ça marche tout le temps. Il est tout le temps en train de gagner, de marcher, de réussir. Et quand il arrive à Madrid, et en fait, honnêtement, on a tous l'image du quand il arrive un peu gros, un peu bronzé, tu sais, trop de barbecue. Et lui, il reconnaît. Hein. C'est le premier. Il dit, mais en fait, ça, c'est juste une petite partie parce qu'après, c'est sa blessure qui l'a tué. Sa blessure contre le PSG, il s'est blessé là où il s'était déjà blessé. Tu sais ce que c'est quand tu te blesses sur une ancienne blessure. Oui. Et en fait, et il avait du mal à se remettre. Et quand il se remet un peu, il y a le Covid. Et après, bon, tu vois, en fait, tout s'enchaîne. Et en fait, il a jamais réussi à revenir. Mais il a pas tant abusé que ça. Il dit, lui, son regret, c'est qu'il a pas eu le temps de prouver autre chose que de ce qu'il a fait.
Non, moi, j'en ai des regrets, Jérôme.
Vas-y, Jean-Pierre.
T'as des regrets par rapport à sa carrière. Ouais.
Non, par rapport à la fin, c'est pas la carrière. La carrière, comme l'a dit Julien, c'est un mec qui avait un talent fou, avec des succès partout. Et puis la fin, pour moi, il manque quelque chose. Parce que moi, sincèrement, c'est un garçon qui m'a fait rêver, qui m'a fait rappeler des souvenirs, qui marquait des buts fantastiques, incroyables. Et je m'attendais en fait qu'à Madrid, ça soit juste une confirmation de tout ce qu'on avait vu les années avant. Et en équipe nationale. Et finalement, l'histoire s'arrête là. Aux grandes dames de certainement énormément de personnes, moi le premier, parce que j'estimais que lui devait bien finir, si tu veux. Je m'attendais pas du tout à ce que ça s'arrête là.
Oui, mais
je m'attendais à que il y ait autre chose.
Jean-Pierre, que toi, on est tous pareils. Quand ce joueur-là, il part de Chelsea pour aller au Real, il est sur le toit de l'Europe, il est incroyable, il a été meilleur joueur de Premier League. On sait. Bon, après, il arrive ce moment à Madrid où, comme le disait Julien, il arrive avec 10 kilos de trop. Il se blesse derrière, mais malheureusement, tu te blesses, c'est la conséquence, si tu veux, d'être arrivé en surpoids. C'est toujours pareil, hein, le football, c'est comme
ça. Pas spécialement. Il y en a qui vivent très bien comme ça. Il y en a qui arrivent
avec 10 kilos trop
à chaque. Hein?
Avec 10 kilos trop, non?
Non, pas 10 kilos, mais il y en a qui arrivent souvent avec 3-4 kilos parce qu'ils en ont besoin de couper, ils prennent. Après, ils font la préparation et tu récupères, tu mets un peu plus de temps, mais bon, tu récupères, en plus, c'est quand t'es sérieux. Moi, ce que je trouve courageux de sa part, c'est aussi d'avouer qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait.
Aujourd'hui, il est plus là le problème, oui. C'est ça le problème.
Oui, non, mais peut-être. Mais après, comme tu le disais, Julien, t'as le Covid, t'as la blessure sur une ancienne blessure.
Il a pas tant à dire que ça. C'est jamais facile.
Il a pas tant à dire. C'est ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est cette image qu'on a.
Je trouve que c'est courageux de sa part,
son arrivée,
de trouver des excuses.
Manu, mais il a toujours dit à ma entreprise, il en rigolait presque, que ça n'a jamais été un grand fan des entraînements.
Ouais, c'est vrai.
Il déteste ça.
Quand il est arrivé à Madrid, il sortait de plusieurs saisons fantastiques, phénoménales, où il était sur un piédestal en Première Ligue. Et il arrive dans un club où tout ce que tu as fait auparavant, tu le prends, tu le fous à la poubelle, en fait. Il faut que tu écrives ton histoire avec le Real Madrid. C'est comme FC Barcelone, c'est la même chose. On s'en fout de savoir ce que tu as été ou le joueur que tu es quand tu arrives. On veut simplement que tu prouves que tu fais partie des meilleurs parce que c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. Sauf qu'il arrive là-bas, il y a le soleil, il y a le golf, il y a la nourriture et il arrive un petit peu avec le statut du joueur incroyable qu'il était en Première Ligue. Mais sauf qu'il est au milieu de stars incroyables dans le vestiaire et c'est à lui qu'il doit tout prouver. Et je pense que mentalement et physiquement, il avait plus l'énergie pour
Reprendre le dessus
au niveau de cette exigence-là.
Oubliez pas qu'il arrive Oubliez pas qu'il arrive. Ronaldo vient de partir. C'est que lui, si il y avait la BBC là, lui il arrive, il remplace le C, quoi.
Tu vois ce que je veux dire?
Pas n'importe qui. Donc, c'est-à-dire que t'as tout d'un coup, c'est-à-dire que t'arrives, bon, t'es pas prêt. Tu dois, t'as la perte de Ronaldo juste avant et le Real venait de gagner avec des champions. Et en plus, lui il arrive, il se mange une parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, on est resté sur ça, mais en fait, je l'ai déjà fait plein de fois de revenir un peu gros en août, mais en septembre, je suis déjà affiché.
Il avait une marge en Angleterre.
Le moment où j'arrive, voilà. Et le moment où j'arrive, c'est le moment quand j'ai pas encore, et je me prends cette blessure par Meunier, contre le PSG, et il dit, en fait, du coup, on reste là-dessus. On reste, et en fait, après, j'ai eu que des galères, mais je n'abusais pas comme.
Oui, mais tu sais, Julien, aussi, il y a un truc, et moi, c'est là-dessus que je veux finir, c'est que tu me parles, bien sûr que c'est pas quelqu'un, il le dit, qui aimait les entraînements, qui avait une hygiène de vie incroyable pendant les vacances, je te parle pas pendant la saison,
oui, j'ai jamais eu ça.
Parce que voilà, pendant la saison, il a pas fait les saisons incroyables sans avoir une bonne hygiène de vie, ça c'est clair. Mais une fois que quand t'es plus jeune, tu prends du poids, tu repères, y a pas de souci. Hey, quand il arrive à Madrid, il a plus 20 ans, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il faut aussi rentrer cette blessure, en effet, de surmenier, c'est compliqué par la suite. Et moi, le message envoyé, alors je sais pas ce qu'il t'a dit là-dessus aussi, Julien, mais moi le message envoyé. Voyez, quand il dit j'aimais pas les entraînements, et puis j'étais pas plus passionné que ça, si tu veux, parce que quand t'es passionné de football, quel que soit le statut du joueur, t'aimes t'entraîner, t'aimes te faire mal, et c'est ça qui te prépare au plus haut niveau. Bon. Et comment il explique que ça, que la passion, elle est sortie de sa tête. Aujourd'hui, il regarde encore du foot, il aime le foot.
Ah ouais, non, mais lui, il adore le foot. Mais après, attention, hein. Lui, il fait partie de ces gars qui ont toujours pris le foot comme un jeu, même si après, il a été pro très tôt. Oubliez pas qu'il a commencé à 16 ans à être pro. Ouais. Tu sais, il y a des mecs comme ça qui sont usés plus vite que les autres. Mm-hmm. Il a commencé à 16 ans à avoir la pression. À 19 ans, il joue le titre. Donc, je pense qu'en fait, c'est juste que voilà, il avait besoin. Il y a des artistes comme ça. Tu sais, c'est comme les Neymar, tout ça. Il y a des mecs, ils ont besoin d'avoir une vie normale, entre guillemets, pas de staccanoviste comme Didier Deschamps, tu vois. Ils ont besoin d'être comme ça.
Bon, moi,
après,
je crois
il a un point commun avec toi, Jérôme. Il y a un point commun avec toi.
Lequel?
Et son idole, c'est Zizou. Ouais. Et ça, c'est vraiment un truc que vous avez encore.
Eh ben, exactement, t'as raison. Eh ben, écoute.
Moi, je croyais que le casar enchaîné, c'était pas des analyses de foot, mais visiblement, on va.
Ah,
mais
t'inquiète pas, on a rien analysé.
C'est très bien, ça me rassure.
À mon avis, il n'y a pas analysé. Ouais.
Bon. À partir de minuit, jusqu'à 2h du matin,
allez,
Eden Hazard,
ça, merci beaucoup d'être venu.
Avec Jean-Christophe Drouet, bien sûr, qui doit faire dodo encore.
Et la porte est ouverte, Roten Sanflamme, quand tu veux.
À bientôt, Julien.
Et il est né une grande année, hein. Il est né une grande année, 91, il m'a dit. Grande année, il m'a dit, de Ligue des Champions.
Pour Jean-Pierre, c'est pas bien ça.
c'est un mauvais souvenir, c'est pas grave.
Allez. Je sais pas s'il reviendra, Julien. À bientôt, Julien. Merci beaucoup.
Salut, Julien.
Bonne soirée. Donc, casar enchaîné, retrouvé à partir de minuit. Et puis, dans un instant, nous, dès 19h, eh bien, le multiplex de Roten sans flamme avec la 24e journée. On reparlera du choc entre Marseille et Lyon. Soyez au rendez-vous. C'est dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.